En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute.
Bonsoir! Merci beaucoup! Merci tout le monde! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. D'habitude, les dimanches, on est live juste pour les Patreons. Cette semaine, on est live partout pour tout le monde. Et le but de ça, la raison pourquoi qu'on est là, pour tout le monde, et on est ici pour ramasser de l'argent pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. Si vous voulez faire un don, allez sur pouryvon.com. Pouryvon.com, tu donnes ce que tu veux, tu peux donner. Si, mettons, t'as pas beaucoup d'argent, tu peux donner 5 piastres. Si t'as beaucoup, beaucoup d'argent, tu peux donner 1700. C'est, tu donnes le montant que tu veux. C'est vraiment une bonne cause. Et je suis content. Ça fait 3 ans que Yvon vient au podcast. Ça fait 3 ans qu'on essaye d'y ramasser un peu d'argent avec le podcast. Je suis très content qu'il nous a recontactés cette année. Ou c'est peut-être nous autres. C'est nous autres, Yann? Je pense que c'est nous autres qui l'a...
C'est très possible.
Oui, ouais, c'est nous autres qui l'achale. Merci, Yvon, de répondre quand tu vois mon numéro, sur ton téléphone. Je suis très content d'avoir Yvon Deschamps, très content d'avoir les Lions. C'est un asti de gros show. Ce soir, mesdames et messieurs, on a deux... monument, deux légendes de l'humour québécoise. Voici Lise Dion et Yvon Deschamps. Merci. OK, ben oui, c'est... Merci beaucoup d'être là, les deux.
Ça fait plaisir. Je sais pas si ça fait le même effet à Yvan, mais quand tu dis monument, on dirait qu'on sent tout de suite les crottes de pigeons ici. Hein? Oui,
c'est ça.
C'est vrai, mais tu sais, quand, mettons, le monde, parce que tu es consciente que tu es une légende de l'humour.
Moi?
Ouais,
encore,
non,
Yvan, encore,
oui.
Elle est encore active.
OK. Ouais. Fait qu'il faut arrêter avant d'être une légende.
Ben oui, une okay. légende, ouais. c'est le passé.
OK.
Au ouais. petit. Amener encore un bon bout à faire.
Monument, ah ouais. c'est gênant aussi. J'aime pas ça, monument.
Chris, je savais pas. C'est là que tu vois que je comprends pas la valeur des mots. Je savais pas que je vous insultais. Moi, je disais comme, mais ça, c'est un beau compliment.
Non, c'est un très beau compliment.
Là, toi, t'es en tournée en ce moment. Oui. Puis, je suis allé sur ton site web. Puis, tu sais, moi aussi, je suis en tournée, mais moi, quand je vais à quelque part, je vais un soir. Mais toi, quand tu vas à quelque part, il faut quasiment que tu te loues un appartement parce que tu es là longtemps.
Oui, je me loue un condo à chaque fois. Mais, non, mais c'est parce que je fais 3 soirs.
OK.
Mais je suis privilégiée, là. C'est parce que le monde est... T'sais, le monde qui m'aime sont vraiment fidèles. Puis, c'est pendant la COVID, ils ont tous gardé leurs billets. On n'a pas annulé aucun show. Okay. On les a reportés. Puis, tout le monde a gardé son billet. Ça, c'est une preuve d'amour et de fidélité,
total.
Là.
Ouais, ouais.
C'est vraiment hot.
Puis là, ouais. là, c'est revenu aux salles pleines.
Mm-hmm. Mais t'sais, à 1000. En tout cas, ceux qui ont une capacité de 1000 et plus sont venus au moins à 1000.
Okay.
Mais le monde sont obligés de mettre des masques, par exemple.
Oui, oui. Que moi, au début, j'avais peur que je me disais, ah, ça va être moins le fun avec des masques, mais finalement, après 3 minutes,
ouais.
on ne remarque même plus.
Non, ça ne paraît pas du tout. J'ai pas vu tant que ça le monde faire. Tu sais, c'est comme. Moi, je l'aurais fait, mais le monde n'est pas fait.
J'ai vu bien du petit et discret, là, je vais juste laisser le nez dépasser.
Ouais.
Ça, il y en a gros, là, tu sais.
Ouais. Mais j'ai remarqué, j'ai Yvon Deschamps à côté de moi, puis t'es avec lui. Puis moi, je m'en allais dire qu'il y a des masques plus confortables que les autres. Mais ce soir, on s'en fout.
Oui.
Hein? On pourrait pas dire
là,
autre chose.
Là, je vais arrêter de dire que t'es une légende parce que t'as gagné le Félix du
oui.
show d'humour de l'année. C'est-tu show...
sur le web.
Show sur le web. Ça, oui. là, tu sais, quand... C'est clair. C'est clair qu'à la disque, quand ils ont créé cette catégorie-là, ouais, ils ne devaient pas s'attendre que ça allait être un monsieur de 86 ans qui gagne.
Non, mais j'ai eu bien de l'aide.
Ah oui?
On était 6-7.
Mais ça, je l'ai vu, ce ben show-là. Oui. Tu étais venu ici juste avant de le faire.
Ben oui, ben
c'était
oui,
tellement le fun de te oui, voir faire du stand. Tu sais, moi, j'étais... Tu sais, c'était live.
Oui.
Puis j'étais dans mon bureau, puis je riais fort, puis j'applaudissais ben comme oui, un épais tout le long. Mais c'était vraiment le fun de te voir sur
show,
scène.
C'était un beau show, oui, c'est ça. Et j'ai osé, Mike. Tu sais, il fallait que je fasse deux numéros, alors... J'ai fait un numéro que je connaissais, puis j'ai un numéro que j'avais en tête, mais j'ai dit, oh, je vais l'improviser sur place, je ne l'écrirai pas. Et ça marchait, dans le sens que j'ai rien oublié et le punch était à bonne place.
Wow. Et c'est non, ça,
pour un vieux, c'est bon.
C'est très bon.
Ah ouais?
Non, c'est bon, M. Deschamps, c'est très
c'est
bon.
C'est très bon, M. Oui. Deschamps, on va vous être. M. Deschamps, bon. Non, mais c'était très pertinent pour un vieillard parce que je commençais mon monologue en 53, quand la télévision arrive.
Ouais.
Et c'est ma grand-mère qui se changeait parce que la télévision commençait à 4 heures jusqu'à 11 heures. Puis elle se changeait. Elle allait se coiffer. Puis tout ça.
Pour être belle
pour être belle devant la télé. Oh, ouais. Puis là, je disais, pourquoi ma mère? Ben, elle dit, d'un coup, il nous voit. Et là, moi, c'était ça, mon punch, c'est que finalement, après tout ça, moi, je disais cette fois-là, « Ma mère, regardez-moi là, jamais quelqu'un que vous voyez sur un écran va pouvoir vous voir dans votre maison. » Et moi, je voyais tout le monde.
Ah, ouais.
Alors, c'était pertinent.
Ah, ouais. C'est vrai, dans le fond, pour vrai, là, tu sais, chaque fois qu'on entendait ça dans le temps, les vieux qui pensaient qu'on les voyait, ben oui, on pensait jamais que c'était eux autres qui avaient raison.
Ben oui!
Ouais. T'en as-tu fait, toi, des shows de même Zoom ou virtuel?
Ben, j'ai fait une entrevue avec Laurent Paquin dans le même studio que le spectacle.
Ah ouais, OK.
Mais faire des shows là-dessus, j'ai fait des vidéos drôles. Mm-hmm. Chanter dans ma douche, j'aurais pu me tuer d'ailleurs parce que j'ai fait un spécial de Noël l'année passée avec des lumières de Noël dans ma
douche. Dans ta douche? C'est pas dangereux ça pour te faire électrocuter?
Ah, c'est comme...
L'eau et l'électricité.
Oui!
C'est pas la meilleure
mais
affaire.
Là, à un moment donné, j'installe toutes les lumières et je fais, mais tout d'un coup, la pompe de douche coule. Je suis dans ma...
T'as-tu fermé l'eau dans le sous-sol?
J'ai mis un sac de plastique après la pomme de douche avant de faire la vidéo. J'avais trop... J'aurais pu m'électrocuter solide, là.
Ben oui.
Et folle. Juste pour deux minutes de vidéo, tu sais.
Puis ça, c'était une vidéo que tu faisais, que tu mettais
sur
où?
Sur mon site.
OK.
Ouais, ouais, ouais.
Ça,
ouais.
Ça, c'est une mauvaise manière de mourir, ça.
Oui. Il y a Claude François qui était mort comme ça, un chanteur
dans
français.
Son
bain.
C'est vrai?
Il avait dévissé une lumière pendant qu'il était dans le bain.
Plus, en France, en plus, c'est du 220.
Il a pogné de quoi? Il a pogné de quoi?
Il a pogné de quoi, maman?
Il y a du monde tellement pas peureux.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que c'est des épais.
Oui.
Puis, il y a personne d'heureux comme un épais. Ouais. J'ai l'impression que quelqu'un qui meurt électrocuté dans son bain...
Il est heureux.
Il a été heureux toute sa vie, sauf les 11 dernières secondes.
Exactement. Mais j'avais vu dans le temps de la panne générale, là, ben le verglas, il y a un gars en face, il est avec son chum, il veut couper une branche qui sont gelées, là, mais gelées, là, il y a tout ça, des pédalas dessus.
Le gars?
Il veut couper ça. Ah oh, non, le gars, il était
pas
gelé.
Le gars pas gelé.
Ben, peut-être. Parce qu'il a pris une table de pique-nique, après ça, il a ajouté une chaise, après ça, tu sais... Il monte là-dessus, puis son chum, il n'y a pas dedans. Puis, ouais, la branche, je tire. Ah, ouais, là, la bouche, c'est sur le balcon. Il me disait, mais tout d'un coup, l'électricité reprend ma voisine qui était ses pelules. Elle me regarde, elle fait, on va le savoir assez vite. J'ai trouvé bonne. Mais écoute, il avait monté un alambic pour aller voir si le gars qui n'a pas dedans, il va l'avoir, la branche.
Ah, ouais.
Elle déjà, elle pèse déjà 500 livres avec la glace dessus. Ah, ouais. J'en revenais pas.
J'en reviens pas comment il y a du monde pas peureux.
Ouais.
Moi, l'électricité m'a tout le temps. Tu sais, même changer une ampoule, je ferme le breaker. Avant. Quasiment, là, tu sais. Tu sais, j'ai mon petit meter, tu sais. Je suis équipé comme un gars qui sait qu'est-ce qu'il fait, là. Mais, tu sais, j'ai vraiment la chienne de mourir électrocuté.
Mais moi, il faudrait pas que tu me fasses confiance.
OK.
Si je vais chez vous et tu veux que je change la fixture, là, fais-moi pas confiance. Même si le breaker est fermé, fais-moi pas confiance.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Ben, je vais pogner un choc, c'est sûr, là.
Ah, ouais?
Ben oui.
T'as-tu déjà pogné un choc en changeant
de couple? Oui, une fois. Sais-tu, il y avait la tête des poils, là, il y avait un néon en dessous avant.
Ouais. Ouais.
Là, j'ai été mettre ma guenille trempe, moi, en dessous pour nettoyer. Ah, ben ouais. T'as un drôle de feeling, vraiment. Ouais. Parce que même avec mon Samsung, je
ça t'a pas donné le goût. Ça t'a pas donné le goût de le refaire, c'est un feeling quand même.
Non, c'était trop long.
Non?
C'était trop long.
Trop long.
Moi, ça ne dure pas si longtemps que ça.
Hey, c'est fou.
Ça commence bien.
Oui, mais ouais. Tu pensais-tu que tu allais faire des jokes de vibrateur avec Yvonne Deschamps?
Non.
Tu t'attendais pas à ça.
Mais je suis à l'aise.
Tu es à l'aise?
Ah ouais, je suis à l'aise.
Vous autres, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous vous êtes rencontrés?
Ben, c'est quand il m'a présenté au festival Juste pour
dans
rire.
Dans le gala.
J'étais ouais. Un petit cul là, qui arrivait du Dunkin' Donuts.
C'est-tu
pour le Dunkin' que tu m'as présenté?
Ton premier
pour
gala?
Le
Dunkin'.
Le Dunkin'.
Parce que tu commençais. Et puis, on te redemandait le samedi parce que tu avais eu...
J'avais
eu
un hit.
Un gros hit le mercredi.
Ouais.
Et c'est parti, puis ça n'a jamais arrêté. Elle, ça a parti comme...
Non, il y a eu un creux. Ils vont après le Dunkin', parce que j'avais pas de matériel.
Okay.
Je pensais pas que le monde allait aimer ça, là. Je savais pas, là.
Mm.
J'avais mes bangs, puis tu sais...
Fait que toi, tu avais fait un gros hit, mais tu avais juste un numéro.
Ouais.
Ou tu devais en avoir une coupe.
Fait que, ben, j'en avais pas vraiment, parce que je pensais pas, moi, que j'allais faire de l'humour, là. J'ai été pour voir si ça marcherait, puis ça a marché. Mais j'ai-tu mis un C avec les raies, là? Je viens-tu de faire ça?
Ouais.
C'est correct. Ah.
J'haïs ça, faire ça. En tout cas, fait que là, il y a eu un gros mort, là, un gros temps mort après le Dunkin qui était en 91. Après ça, j'ai fait un numéro, je me suis carrément cassé la gueule. Là.
Ah,
ils
ouais,
m'ont mis premier numéro du gala Juste pour rire.
Okay.
Puis dans ce temps-là, c'était le bout de la merde, là, faire le festival.
Oui,
là.
Avec
là, mon agent m'a dit, tu vas faire le numéro sur ta voiture, puis tu vas, avec le matériel qu'on va recouvrir la chaise, on va te faire une blouse. Comment je t'expliquerais bien ça? C'était un numéro, en plus, assis. Mais attends,
okay.
L'animateur de la soirée, c'était Normand Brathwaite qui venait de se casser une jambe. Il a décidé d'animer quand même, mais son numéro d'intro pour réchauffer la salle... Ça a été vite, mettons.
Ouais. Elle était pas puis Normand, c'était tout le temps des gros chaud, numéros non. Qui dansaient. Fait qu'un gars avec la jambe cassée, ça
ouais,
danse moyen.
Ouais. Ça danse moyen, ouais. Exactement. Fait que là, il était pas en forme ben. Là, moi, j'arrive avec le fauteuil, la blouse comme le fauteuil, puis je parle de mon char. Mais cassé la gueule, solide, là. Ça, c'était en 92-93, je pense. Je rentre dans l'âge. Tu sais quand tu rentres dans l'âge, puis le monde
puis personne
te
regarde.
T'as juste envie de rentrer chez vous, puis tu dis, hey, moi, je lâche les mots, là, c'est sûr, tu sais. Puis là, il y a eu le point G qui là, ça a
deux ans après, hein?
Ouais,
95.
15,
trois ans après. Fait que ça devait être long, ces trois ans-là,
ben, j'ai écrit,
entre les deux.
J'ai écrit des numéros pour avoir au moins une heure et demie de matériel, tu sais, puis pouvoir faire toutes sortes de salles, puis des congrès, puis tout ça. Fait que là, c'est là que ça a commencé plus après le point.
Mais la vie est bien faite, parce que moi, même quand je t'avais rencontré, tu sais, ça faisait, c'était en 80, mettons, 14, c'était 95 même, c'était juste avant le point G. Puis je me rappelais du Dunkin, mais je me rappelais pas du numéro de toi déguisé en chaise. Fait que, tu sais, déjà, le monde... quand on se plante, on pense tout le temps que tout le monde remarque, mais c'est juste nous autres, on dirait.
Ouais. Ouais. Mais en même temps, j'ai eu une grosse leçon ce fois-là, c'est que j'ai compris que stand-up, ça veut dire faire des numéros debout.
Debout. Oh. Ouais.
Puis, ouais. quand tu as commencé, ces deux numéros-là, t'écrivais-tu tout seul?
Non, pas tout ça, j'ai eu de l'aide. Je te dis, toute ma vie, même dans les shows, j'en écris à peu près 75%.
OK.
Puis je monte le reste à d'autres humoristes. Mais même le dernier show, j'avais pris des jeunes auteurs pour pas être trop vieille dans mon humour, tu sais. Puis, mais finalement, ceux qui m'ont sorti, j'étais là, hey, c'est drôle, mais non, je peux pas faire ça. Mon public va avoir peur. Je peux pas offrir quelque chose qui va trop les
brasser.
Ben, c'est-à-dire, tu sais, si je décide demain matin de faire un show habillé en latex avec des plumes dans le derrière, pas sûr que mon public va apprécier, je pense pas, tu sais. Ah ouais. Sont mais là, mais tu sais qu'ils
tu
vont m'en faire comprendre
un nouveau
ça.
Public.
Ouais. Je pourrais aller à Las Vegas. Ouais. Mais Yvon m'a dit quelque chose. Quand j'ai fait La femme afghane, qui est un numéro hyper controversé,
ouais.
Je pourrais plus faire maintenant, mais pourtant qui n'était pas méchant du tout.
Ouais.
Yvon, il m'a dit, tu sais, Lise, t'as la sympathie du public pour le faire, ce numéro-là. Mais chaque humoriste, si je vais te voir en show, c'est une facture, Mike Ward. Puis ils vont me dire, si le monde vient de me voir, ils vont venir voir une facture des chants. Ben tu sais, oui, c'est pas... à chaque show, t'es pas obligé de tout jeter ton travail puis recommencer un nouveau style complètement. Puis quand j'ai fait mon numéro sur les adolescents, j'avais parlé à Yvon puis j'avais dit, je suis gênée d'écrire un numéro sur les adolescents parce que t'en as fait un qui est tellement bon. Mais il me dit, oui, mais c'est la vision du père et c'est Yvon Deschamps qui l'a écrit. Si t'en fais un, c'est la vision de la mère et c'est la facture Lise Dion, tu sais.
Ouais.
Fait que ça m'a aidé à comprendre, parce que tu sais, même je trouve les jeunes humoristes, ils veulent pas refaire leur numéro parce qu'ils pensent que tout le monde les a vus.
Mmh.
Mais c'est pas vrai.
Ben non.
Tu sais, moi, le Duncan, je l'ai fait en tabarouette, mais à m'entanner, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui l'avait vu.
Mais tu sais, dans le temps, mettons, du Duncan, mettons, quand ça passait à la télé, il y avait tellement de monde qui le voyait, le numéro était brûlé pour une semaine. Mais, tu sais, après ça, déjà, le monde avait oublié les gags. Ils se rappelaient du numéro, mais tu te rappelles pas de toutes les gags.
Non.
Mais souvent, tu sais, on faisait ça, « Ah, je peux pas faire ça, c'est brûlé. »
Ben oui.
Puis t'étais comme, « C'est où ça a joué? » « Ah, ça a joué à Super Écran il y a 6 ans. Ouais. » Tu sais, t'étais comme, « Il y a personne qui a vu ça. »
C'est vrai. Tu peux le faire.
Mais en tout cas, tu m'as appris beaucoup, Yvon, là-dessus de la mécanique, même pour l'argent. Tu te souviens-tu, je t'ai dit, qu'est-ce que je fais avec l'argent là, pour le monde qui m'en emprunte, puis tout? Tu m'as dit, rends pas le monde dépendant de ton argent. C'est ça que tu m'as dit.
Oui, oui, c'est ça.
Il dit, moi, le premier argent que j'ai fait, je l'ai passé à quelqu'un, je l'ai jamais revu.
Voilà.
Le premier gros chèque que tu as passé. Je ne dis pas à qui... Je dis pas le nombre d'argent que tu as donné. Mais lui, il a fait ça toute sa vie, donner de l'argent. Lui et Judy, là, du temps, de l'argent, ils ont fait ça toute leur vie, donner au suivant, donner tout le temps. Fait que j'ai assez.
Mais là, on regrette.
Ça,
mais la première fois, je voulais pas y donner.
Ah, OK.
Non. Tu avais prêté.
Tu avais prêté, mais il n'est jamais revenu.
Ouais. Non, mais c'est bon, un gars qui me... Écoute, là, c'est là, je gagnais 1 000, 1 200 par année dans ce temps-là. Là, tout à coup, je fais quelques monologues, puis là, ça se met à marcher. Là, je fais la Place des Arts. Je sors de là avec quelque chose comme 28 000 piastres. Là, on parle des années 70.
Des années 60.
Comme 250 000 aujourd'hui. Là. C'est beaucoup d'argent. Et là, par hasard... un de mes amis que j'avais pas vu depuis longtemps s'est ennuyé de moi. Et il fallait qu'il me voie, je suis plus capable, là, ça fait trop. Et la conversation, puis là, me passeras-tu 25 000? Je suis mal pris, sans ça, je vais faire faillite. Fait que j'y ai prêté. Fait que j'ai perdu mon argent,
puis
mais surtout...
T'étais proche comment de ce gars-là?
Pas trop proche.
Hey, si tu veux annoncer sur Mike Ward sous-écoute, envoie un email à info@agence2b.com. info@agence2b.com. C'est ça. C'est ça la pub, Yann. C'est incroyable.
C'est ça, la pub. Regarde ça. De retour au podcast que vous écoutiez. Et juste pour être sûr qu'il y ait une belle transition. Ha ha! OK.
Mais à partir de ce moment-là, je me suis éloigné un peu. Mais c'est comme si quelqu'un gagne la loterie, mettons.
Ouais.
T'en as pas d'argent. Donc, c'est pas important que si t'en fais de la perte, t'as pas eu le temps de savoir ce que c'est de en avoir.
Ouais.
Alors, juge-moi 25 000. Quoi? 25 000 piastres dans ce temps-là, t'achetais une maison à Montréal, un char. Tu sais.
Mais pas vrai, une maison à Montréal, dans ces années-là, ça devait être 35-40
000. Oui, oh oui, quoi? Puis ça, c'était des grosses maisons. Nous autres, à la fin des années 70, on peut le dire maintenant, ça fait tellement longtemps, à la fin des années 70, là, presque 80, on a acheté une maison à Westmount. Là. Une maison, un coin de rue, avec un jardin d'à peu 50 sur 50, une maison de 4 500-5 000 pieds carrés, et ça coûtait pas 100 000 piastres.
Tabarouette! Ouais,
c'est drôle. Hein?
Hey, c'est effrayant.
Ah ouais.
Ça coûtait rien, les années 70. Là. Pour moi, les plus grandes années, c'est 60-70, où on en avait le plus pour notre argent.
Ouais.
Dans les années 60, ma première femme et moi, Myriel, on était des jeunes acteurs, avec 2000 piastres par année à deux. On avait un autosport. On vivait au centre-ville. On mangeait au restaurant au moins 4 fois par semaine. C'est tout. Ça fait pas de bon sens.
Et tabarouette.
Aujourd'hui, dans ce temps-là, dans les années 60, où encore beaucoup de femmes restaient à la maison, un homme au salaire minimum pouvait faire vivre sa famille. Aujourd'hui, là, c'est ça.
Non.
Alors, c'était merveilleux. Tu avais plein pour ton argent, tu n'avais. Mettons que... C'est fantastique. Alors, 25 000 piastres, t'as de l'argent.
Ah ouais, mettons,
écoute.
Et parti vite, il te restait 3 000 après?
Écoute, 1 500. Mais j'ai été bon. T'es bon pendant un an au moins.
Ben oui, t'es habitué de vivre avec 1 500 par année.
Ben oui.
T'étais comme Christ.
Reste à 3 000, t'es riche.
Mais tu sais, moi tu sais, je savais que ça arrivait pour le monde qui gagne la loterie.
Ouais.
Moi, j'ai jamais vécu ça, mais c'est parce que moi, ça a été bien long avant que je commence à faire de l'argent. Fait que ma famille s'en sont pas aperçus. Tu sais, je gagnais 1 000 de plus que l'année d'avant. Tandis que vous autres, les deux, vous êtes allés de pauvre à ultra riche. Mais tu sais, ultra riche.
Calme-toi.
Ultra riche pour le showbiz québécois.
Ouais.
Pour le.
Ultra riche pour les impôts. Ça, c'est
OK.
Ça.
OK.
Non, mais écoute, juste pour te donner une idée, en 75 à peu près, ma mère m'appelle. « Veux que tu m'achètes une maison. » OK. Ah, hey.
Avait parlé à ton ami.
Ouais. Non, mais elle voulait... Mon frère venait de déménager à La Chine. Alors, elle voulait avoir une maison proche. On a trouvé une maison tout près. Ben, écoute, là, à La Chine, devant un parc, une maison ordinaire, là, des petits carrés 20 par 24, 3 chambres à coucher. Mais ça coûtait 14 000 $.
Ouais. Ça n'a aucun sens.
Pourquoi ça a monté de même? Parce que les salaires, ils n'ont pas augmenté tant que ça.
Ben, ils ont quand même, écoute.
Ben ouais, ils ont augmenté, mais c'est quoi le salaire minimum maintenant? C'est 15 $?
Pas encore. C'est 13 et quelque chose. Hein?
Chez McDo, ils payent 14 $. Je sais, je travaille là fin de semaine.
T'as lâché Duncan, t'as pas assez cher. T'as y'a pas assez.
Ils ont fermé.
Ils ont fermé. Ils ont fermé.
Non, mais 14 de l'heure, là, tu peux pas faire venir, tu peux pas faire tout ce que tu as à faire pour ta famille. Mettons,
non, tu peux
une famille,
vivre.
Deux enfants, tu peux plus vivre juste avec
moi,
ça.
Moi, ça, c'est un enfant qui m'avait vraiment rendu triste une couple d'années. Il y a les premières fois qu'il y avait des articles, mettons, sur d'un journal sur des mères monoparentales qui avaient des jobs et qui ne réussissaient pas à payer leur loyer. Puis, il me semble, quelqu'un qui a un job devrais tout le temps être capable de
au
payer.
Moins de payer
ouais,
le loyer.
Au moins de payer ton
le
loyer
reste,
puis nourrir. Je peux
là.
Comprendre que tu ne seras pas capable
moi,
d'aller à Cuba deux
que...
fois par année.
Oui. Mais je suis contente parce que pendant 5 ans, j'ai réussi à payer un loyer monoparental en ayant la job de serveuse, mais je me débrouillais bien avec les pourboires. Puis je faisais des shows, Duncan. Je ne faisais pas juste vendre des bains.
Ben oui.
Mais j'avais beaucoup de pourboires, mais... Tu sais, j'ai appelé le propriétaire peut-être 2 fois pour dire « Attendez un petit peu pour prendre le loyer ce mois-ci, tu sais. » Mais il m'arrivait toujours un contrat, genre « Aller faire un petit show à Québec, aller faire… » Tu sais, la vie m'a toujours donné un coup de main, tu sais. Aussitôt que je manquais d'argent, il y avait un téléphone important
toi,
qui arrivait,
tu sais. Quand t'as commencé à faire de l'humour, tu travaillais déjà au Duncan?
Oui. J'ai lâché tard. J'ai commencé en 87 l'humour au club, okay. Soda. Puis en 93-94, je travaillais encore au Duncan parce que vu que j'avais les 2 enfants, je me disais,
ouais, t'avais pas le choix.
Je ne peux pas laisser une job où je sais que je vais gagner de l'argent que d'attendre que le téléphone sonne. Tu sais, ça...
Puis avant de commencer à faire de l'humour, t'avais-tu une deuxième job ou c'était juste, tu travaillais juste au Duncan?
Juste au Duncan.
Fait que ça devait être des années vraiment dures.
Ben ouais, je ramassais des meubles dans les poubelles. Les enfants se cachaient parce qu'ils avaient honte, là.
OK.
Quand j'allais ramasser un fauteuil dans les poubelles, ouais, les enfants se cachaient.
Ça devait être dur parce que tu as eu une enfance riche.
Oui, ben oui.
Oui, c'est ça.
J'étais habituée d'avoir de l'argent.
Oh, l'argent. Lise a eu une enfance
qui était drôle,
assez
là,
tough. Hein?
C'est que, hein?
T'es assez tough.
Mais c'était drôle parce que pendant que j'avais les 2 enfants, à un moment donné, j'ai acheté un gars, il avait volé un vidéo, puis il me l'a vendu pas cher, tu sais.
Un VHS? OK.
Puis là, il y a un huissier qui arrive un matin parce que je pense que j'avais pas payé mes tickets ou je sais pas quoi.
Ah, puis tu pensais
j'avais
ça.
J'avais pas d'argent pour les payer, les tickets. Bon, en tout cas. Puis là, j'ai dit au huissier, en tout cas, si jamais vous prenez le VHS, là, ça se peut que vous ayez du trouble parce que c'est du stock volé.
C'est bien drôle.
Il l'a pas pris, il me l'a laissé. C'était le fun. Il me l'a laissé, bien.
C'est bien drôle. Mais toi, ton enfance, ta mère a été dans un camp de concentration.
Va pas fouiller.
Tu veux pas? OK, non. Okay.
Non, ça me dérange okay. pas. Non, non, mais... Non, mais gars, on parle à Yvon.
OK,
à Yvon.
Parfait.
Ouais. Moi, le monde, ils savent tout ce que j'ai fait. Ouais. Oh. Hein? Non? Ben oui, non, ça avait des bons bouts, là. Non, moi, je veux qu'on parle de l'expérience à Yvon.
C'est quoi,
Là, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tantôt. Socialement, on disait dans les années 50 et 60, puis un bout du 70, quelqu'un pouvait vivre avec le salaire minimum. Mais ça a duré en 25 et 30, ou 30 ans, dans toute l'histoire du monde. Ah ouais. Avant ça... Écoute, les ouvriers étaient exploités à un point que ça n'a aucun sens. Comme je disais tout le temps, mon grand-père travaillait 72 heures par semaine, 52 semaines par année. Les ouvriers n'avaient même pas le droit de vacances. C'était défendu.
Ouais.
Et pour 72 heures par semaine, il avait peine à nourrir sa famille. Écoute, il ne pouvait pas mettre une scène de côté. C'est juste les années 50, 60, puis un peu en 70. Sinon... ça a toujours été très, 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 très difficile. Très difficile.
Mais quand est-ce que tu as commencé à avoir le don du partage, le don de passer au suivant? Parce que moi, en tout cas, de tout le début de la carrière, il y a eu... Moi, j'ai connu le chaînon, là, mais je ne sais pas ce qu'il y a eu comme œuvre...
Avant
que que vous avez donné de votre temps, toi puis Judy, mais moi, je suis arrivée au chaînon. Fait que ça fait déjà un bout de temps là, que vous êtes impliqué, que vous donnez du temps, vous donnez des sous, de chercher du monde qui vont faire des dons. Puis c'est plus votre organisme grossissait, plus les dons étaient. Tu sais, comme agrandir le Centre Sud pour les enfants.
Ouais.
Mais il faut quand même la payer à Baptiste. Là,
absolument. Ça, on a été, parce que Gaétan Forcio puis toute l'équipe du Centre, c'est quand même exceptionnel. Pensez à ça, là. Partir de rien, dans un quartier quand même pauvre, assez pauvre, où il y avait des piqueries partout, des putains à tous les coins de rue, et construire un centre merveilleux, hein, avec une piscine fabuleuse, des gymnases, etc., qui a coûté 28 millions de dollars.
Tabarnak, hein?
Et on ne doit pas un sou à personne.
Ah! Wouhou!
Hein? On est quêteux ou on ne l'est pas.
Hey, mais c'est de l'énergie, là.
Ouais, ouais.
Aller chercher cet argent-là. Là.
S'il avait construit ça dans les années 50, ça aurait coûté 22 000.
22 000, ben oui. Maximum.
Le montant que l'autre t'empruntait.
Ben oui, c'est ça. Ouais. J'aurais pu le payer moi-même.
Ben, c'est ça.
Hey, mais 28 millions, c'est fou. Mais c'est tellement beau, puis c'est impressionnant.
C'est très impressionnant.
Puis ça, ça doit te faire du... Moi, tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu arrives, tu dois avoir comme des papillons en rentrant. Tu sais, tu dois faire comme « Wow, c'est... Ouais. J'ai aidé à
oui,
à
j'ai aidé,
ça,
voilà. T'sais. Moi, j'ai aidé. Et mais les gens qui nous ont beaucoup aidés, là, parce qu'à un moment donné, il a fallu qu'il y ait des gens qui nous donnent littéralement des millions.
Là, oui.
Hein? Alors, mais ces gens-là, les grands donateurs, on peut en nommer M. Coutu, M. Desgroseilliers, etc., ils ont été impressionnés par ce qu'ils voyaient, parce que l'association a 40 ans et tout ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, et là, nous, la dernière phase, c'était 10 millions, mais les deux autres phases étaient déjà payées. Et quand tu dis, tu vas faire affaire avec quelque chose d'absolument merveilleux, mais qui pourrait avoir eu des déficits année après année après année. Aucun déficit. La moitié, il aurait pu avoir des hypothèques. Aucune hypothèque. Tout est payé. Chaque année, ils réussissent. Parce qu'en plus, ça coûte à peu près 4 millions par année à faire fonctionner. Fait que quand tu cherches 10 millions, ça prend 5 ans. Mais il y a eu un autre 20 millions qui s'est dépensé pendant 5 ans, 4 millions par année. Mais ce qui impressionnait les gens, c'est ça. C'est l'idée que l'œuvre est absolument exceptionnel, là, et ce que ça fait pour les jeunes. Deuxièmement, que c'est tellement bien tenu et que tu t'embarques pas que là, toi, tu donnes un million puis le lendemain, ils vont fermer la place parce qu'ils n'ont pas payé leur hypothèque. Ou, tu sais. Alors, c'est payé, c'est chaque année, il n'y a pas de déficit, c'est très important. Alors, en tout cas, c'est le fun de faire partie de ça. Mais pour moi, je vais dire, toutes les petites choses dans la vie, comme moi, je suis un des fondateurs du Cercle de Catsou avec Bussonneau puis Claude Léveillé et Jean-Louis Millet. J'ai pas fait grand-chose, moi, au Catsou. Mais sans moi, je me dis, il n'y aurait pas de Catsou.
Ouais.
Je suis une partie du Catsou,
hein,
qui a fait que c'est arrivé. Hein? Alors, c'est le fun, en mode. Ça, c'est le fun. C'est quelque chose qui reste parce que le Catsou a beaucoup servi aux jeunes dramaturges. Tu sais, quand on a ouvert... D'ailleurs, nous, on a fait notre premier show, le Sticho, au Catsou.
Le Sticho avec Charles Lebois. Puis.
Ouais. Et c'est là que j'ai fait mon premier monologue.
C'est une salle de combien
à
de
l'époque,
personnes?
C'était 120.
120? Un fait peu que le Sticho est né devant 120 personnes.
120 personnes, absolument.
C'est fou, hein?
On a joué 3 semaines. Donc, 20 fois, mettons. 20 fois 100, 2000
personnes. Je ne
travaille
pas ici, moi.
Ouais.
Peut-être 2000 personnes qui l'ont vu.
C'est à peu près ça, moi.
Ouais.
Je suis sûr, par exemple, moi, là, j'ai rencontré 8000 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient là. Là, c'est show, c'est le genre de show qui doit avoir bien du monde qui sont comme, « Ah ouais, moi, j'étais là, je l'ai vu au début.
Ah, »
Mais la vérité, c'est qu'il était juste 2000 qui l'ont vu.
Non, il y en a plus parce qu'on l'a repris.
Oui, oui, en tournée.
Oui,
puis...
oui. Ouais. Mais à Montréal, on l'a fait après la Comédie canadienne, qui est maintenant le Théâtre du Nouveau Monde. Donc, 7 shows à 1000 personnes. Un autre semaine. Mettons qu'il y a 10 000 personnes à Montréal.
OK.
Et avant le Catsou, c'était-tu le monde? C'est-tu que tu étais drummer?
Oui,
il m'avait même parlé la première fois que tu es venu à Sous-Écoute.
OK.
Puis moi... C'est l'affaire qui m'avait marqué, c'est qu'il est devenu drummer sans savoir jouer du drum.
C'est ça. Voilà.
C'est ça le bout impressionnant.
Mais il m'a raconté qu'il accompagnait Claude Léveillé. Ouais, à un moment donné, Claude Léveillé a travaillé avec André Gagnon, le pianiste. Puis André, qui avait l'oreille, a dit « Pas fort fort le drum, hein? » Là, il a fait « Là, c'est pas parce que tu viens accompagner Claude Léveillé que tu vas me montrer comment jouer du drum. »
Non, non, non. Premièrement, c'est le contraire.
Ah, je pas. Tu devais être chaud quand tu me l'as raconté. Non. Ou c'est moi qui étais chaud?
Oui, t'as chaud. Ouais, c'est moi qui connaissais André et qui l'a présenté à Claude.
Qui l'a présenté à Claude, ouais. OK.
Et quand André a travaillé avec nous, le drum, ça ne le dérangeait pas tellement. C'est l'accordéon.
Ah, OK.
Parce que, là, à un moment donné, c'est comme le drum. Tu sais.
L'accordéon, ça, t'as appris sur le tas aussi?
Je jouais ce qu'il me disait de jouer.
Mais
c'est comme le drum, tu sais. Le drum, il m'a demandé, sais-tu jouer? J'ai dit, un peu. Là, après, il avait besoin que je joue de l'accordéon. Joues-tu de l'accordéon? Un peu.
Mais j'ai l'impression, faire semblant de jouer du drum, c'est plus facile que faire semblant de jouer de l'accordéon.
Absolument, oui, oui. <T'sais>? Non, mais premièrement, il y avait un accordéon magnifique, joli, qui avait un son exceptionnel.
Ça jouait de ça.
Non, mais c'est un petit accordéon piano, je jouais du piano un peu. Alors, je faisais juste des contre-chants. Là. Je faisais rien de compliqué. Alors, j'étais capable d'apprendre les petits contre-chants. Mais Dédé aurait aimé ça que je joue. Mais moi, je ne pouvais pas leur dire, parce qu'ils me payaient.
Mais c'est ça.
Je ne pouvais pas leur dire, Claire et moi, ça ne fait pas votre affaire. Mais je le pensais tout le temps.
Ouais.
Je ne comprenais pas pourquoi ils me gardaient. De temps en temps,
c'est parce que tu étais drôle dans l'âge. Ça doit être c'est drôle.
Parce,
pour vrai, tu étais le fun dans l'âge.
J'étais sympathique.
Oh ouais.
Ben oui.
J'étais sympathique.
Ben oui, souvent, là, tu sais, il me demandait, par exemple, tu n'aurais pas envie de prendre des cours de batterie? Un tel donne des cours. Ça ne m'intéresse pas.
Oh, alors là.
Mais clairement, mais non, mais ça a été difficile.
Ça ne prend pas des cours de batterie.
Ben oui, non. Un petit peu d'accordéon, non. Mais là, quand Claude a fait la Place des Arts, la salle Wilfrid Pelletier, c'est le premier Québécois faire un récital à Wilfrid Pelletier en 64. La salle a été ouverte en septembre, le 26 septembre 63. Et lui, il a joué comme le 25 janvier 64. Là, il avait besoin d'un band, il avait besoin d'une dizaine de musiciens. Donc, il avait besoin d'un drummer qui lit. Alors...
Puis comme leader au
là,
drum...
Là, il m'a demandé, j'avais envie... De, il m'a dit, lis-tu? J'aurais dit un peu. Mais... ils n'ont pas demandé, ils m'ont clairé. Non, mais c'est drôle parce que Claude, pauvre Claude... Il ne savait pas comment dire.
Oh, ça, mais il t'aimait.
Ben oui, puis moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Là. Tu sais, je savais que je n'avais pas d'affaires là. Mais pour 25$, je ferais n'importe quoi.
Mais de là à jouer à la salle où il prit de Pelletier, c'est un autre
affaire. Non, j'ai pas eu le droit.
Et on s'habillait tellement Place des Arts pour aller à Place des Arts. Là.
Oh!
Mon Dieu, je ne savais pas comment s'habiller pour aller voir des shows.
C'est vrai?
Moi, j'allais voir Aznavour, voir...
Le monde se changeait.
Tu étais comme une grand-mère qui écoute la télé.
Oui, absolument.
Non, mais c'est pas grave à cette heure-là. La Place des Arts, c'est plus... tu peux même amener ta bouteille d'eau dans la salle.
Ben oui, avant, tu permets pas de ton même, drink. Là. Oh, maman!
Même maintenant, quand je fais la salle Maisonneuve, là, j'ai toujours un complexe d'infériorité, puis je me dis... Puis d'un coup, le public qui est là, c'est ceux qui aiment la musique classique puis le ballet. Puis toujours le feeling de rentrer en tutu avec un violoncelle. Pour moi, la Place des Arts, c'est la grosse affaire. Là,
moi, c'est le même pour le Grand Théâtre à Québec. Québec.
C'est vrai?
À chaque fois, tu sais, Comédia, ben à l'époque, le Grand Rire, c'est
là.
Puis à chaque fois, j'étais comme, ma première phrase, je perlais un peu. C'est comme bonjour, alors puis là, tu sais, je faisais quand même mes gags qui n'ont pas
mais
de classe, mais avec un petit accent
avec
distingué.
Un petit, une petite prononciation spéciale.
Quand les gens sortaient là, dans les années 70, ils dépensaient. Là, la madame allait se faire coiffer parce qu'elle allait à la Place des Arts. Elle s'achetait une nouvelle robe.
Ouais.
C'était tout un commerce autour là, qui marchait. Il se changeait tellement. En 72, on avait eu. Une grosse tempête et il y avait une grève des cols bleus. Donc, il ne ramassait pas. Il y avait tellement de neige. Moi, j'avais deux shows à Place des Arts ce jour-là, un samedi, 2h30, 7h30. Là, je suis parti de chez nous, peut-être à midi. Vers 1h30, 2h, mon auto était pris dans une rue, je l'ai laissé là. J'ai continué à pied, je suis arrivé à Place des Arts à 5h, je pense, je ne sais pas trop. En tout cas, le monde ne se rendait pas. Et les seuls qui sont venus le soir, j'avais deux shows, c'est un samedi aussi. Alors, trois shows, bon, en tout cas. Et les seuls mondes qui se rendaient, c'était le métro. Et les autres sont tous venus en skidoo. Tout le monde en skidoo.
Mais voyons donc.
Et là, les madames, je te jure, là, et les messieurs aussi, avec leur saut de skidoo puis leur bas, ils enlevaient ça. Ils étaient habillés
en dessous, chic,
les colliers, les bagues, les gars, les cravates, tout.
Wow!
C'est incroyable. C'était fabuleux.
Et puis pour moi, aller voir Aznavour, je vendais des bouteilles vides, OK? Pour arriver à payer des billets de spectacle.
Ah ouais.
Puis j'avais, tu sais, comme je toutoune, mes cuisses, ils frottent. Ouais. Puis là, ben, j'avais des pantalons qui avaient frotté. Fait que là, pour aller à la Place des Arts, je les recouche. Fait que j'arrivais avec ma petite chemise usée, mes pantalons usés, mais je voyais un beau show. Ah,
tu te rappelles-tu, c'était combien, les billets?
Non. Ben, ça devait être... Combien ils vont, à peu près?
Ben, nous, on a commencé, le studio, c'était 1,25 $. 1,50 $ le
samedi.
Non, j'étais
un petit peu plus...
Ouais. À Aznavour, ça allait... Les Français, ils allaient jusqu'à 4 $.
Ouais, mais non, moi, je pense que j'ai payé 20-25 $, là.
Ah, oh, ben, ça doit
J'en ai vendu des bouteilles, en tout
cas. Ça, c'était en 2000, là, tu parles.
Non.
Pas des années 70, t'as pas payé 25 $ dans les
années
70.
Non, ben je ne fais pas y aller dans les années 70.
Non, c'est ça.
Années 80, ça?
Ouais,
85.
Okay. Parce 90.
J'ai l'impression que les billets n'ont pas tant... Ben pour les gros shows, ça a vraiment changé dans les dernières années. Mais pour les shows d'humour, les prix n'ont pas tant changé dans les 20 dernières années, je trouve. Je me rappelle, il me semble, les premiers shows que j'allais voir fin 90, c'était comme 30-35. Puis là, c'est comme 45.
T'sais? OK. Mais nous, dans les années 60, quand M. Gélina a acheté le cinéma puis a fait la Comédie canadienne, il voulait en faire un théâtre, puis ça n'a pas marché. Finalement, il a fait comme l'Olympia. Hein? Il faisait des récitals. Mais là, c'était les plus grandes vedettes des années 60. Là. Brassens, Brel, Aznavour, Bécaud, tout ce gang-là, ça venait tout là. Et les billets les plus chers étaient 2,50 $. Parce que moi, M. Gélina gardait toujours le deuxième balcon au prix du cinéma.
OK.
Alors, on pouvait voir toutes ces grandes vedettes-là pour 90 sous.
Wow!
T'sais, comme je te dis, les années 60, c'était fabuleux.
Ça, c'est une affaire que tu avais faite pour une de tes tournées.
Oui,
hein,
absolument.
Toi, que les balcons
étaient au prix du cinéma.
OK.
Mais ça vient de M. Gélina.
Ça, j'ai essayé, moi. Ouais. Je me rappelle plus si c'était tourné là ou l'autre avant. Puis j'étais comme, mais ça, on devrait faire balcon, devrait être moins cher.
Ouais.
Puis on dirait que c'est compliqué à ce temps. Tu sais. J'ai demandé à 22 personnes, puis tout le monde faisait, ah non, ça se fait
mais
pas.
Mais même si tu veux avoir un prix de billet raisonnable, ce qui coûte cher, c'est le système de billetterie.
Oui, les frais de service.
C'est pas nous autres, cet argent-là. Là. Les frais de billetterie, là, c'est l'enfer comment ça coûte cher. Fait que c'est dur pour un couple sorti, restaurant, gardienne, stationnement. Stationnement, c'est aberrant. Là. T'as pas de bon sens. Là. Tu payes 25 $ pour aller au Centre Bell de stationnement. C'est même pas ton billet, là.
Nous autres,
voyons donc.
Tu sais, l'été prochain, on fait sous-écoute au Centre Bell. Puis je voulais des prix vraiment pas chers. Puis je leur avais dit en joke, j'avais dit, au balcon, je voulais que ça soit genre 8 $ le billet pour que ça soit 8 $ plus 12,50 $ de frais de service. Vu qu'ils ont tellement pas de crise de sens. Puis là, eux autres ont fait, ah non, on va baisser nos frais de service parce que sinon, on a de l'air des crosseurs. Chacun, mais vous êtes des crosseurs, restez. C'est pour ça que je mettais ça à 8 $. Mais... J'avais eu cette discussion-là à m'emmener avec un propriétaire de salle de spectacle. Tu sais, nous autres, ici au bordel, nos frais de service, je pense que c'est 1,5 $ le billet ou quelque chose de même. Puis là, lui, il m'expliquait que dans sa salle, c'était 8 ou 10 $. Puis il disait, mais moi, c'est une grande salle, fait que c'est plus de frais. Puis j'étais comme, ouais, mais toi, tu vends 1,000 $ ou 2,000 $ par soir. Fait que tu sais, nous autres, c'est une salle de 100. Fait que nous autres, ça nous... Tu sais, 150, on couvre les frais.
Ça être plus cher.
Toi, ouais. Ça devrait être... Tu sais, quand tu vas au Walmart, c'est pas 10 fois plus cher vu qu'ils font « Mais non, mais on est gros. » Tu sais, fait que... j'ai jamais compris mais je pense le problème des frais de service, excuse Yvon, puis moi je vais partir sur une dérape sur les frais de service, mais le défaut c'est que c'est une monopole. Puis même si c'est pas, tu sais, le gouvernement fait comme si c'était pas une monopole vu qu'il y a plein de compagnies, mais chaque salle travaille juste avec une billetterie. Fait que si toi, t'arrives, si on pouvait dire, regarde, moi, je veux louer le Saint-Denis, mais j'aimerais avoir Ticket Pro ou j'aimerais avoir, tu sais, peu importe la compagnie, là, ça serait plus compétitif. Mais ça...
Mais est-ce que ça intéresse les gens? C'est ça qu'il faut savoir.
Mais...
Excuse. Non, mais... Je veux pas que tu partes là-dessus, parce que je le sens. Tu vas te pomper, puis
Non, mais moi, j'avais fini ma parenthèse.
Mais
ça, les frais de service, Yvon, ça a commencé quand? Parce que, me semble, moi, quand j'étais jeune, billet, si c'était écrit 8 piastres, c'était 8 piastres.
C'est ça. Mais la Place des Arts, c'est la Place des Arts, dans mon cas, qui a commencé ça. À charger 1,5 piastres de plus ou 1 piastre. Mais quand le billet est à 2,50, il change 1,5 piastre.
Ça paraît
juste. Oui, il t'en reste juste une. Alors.
Mais là, c'est parce qu'il y a des compagnies que tu dis, mais si la Place des Arts, c'est eux autres qui ont parti ça. Mais maintenant, c'est ça. Il y a des compagnies
partout. Mais c'est juste la Place des Arts. Et c'était drôle, parce que dans ce temps-là, c'était tout à la main. Tu allais acheter des tickets. Il y avait un grand mur avec toutes les rangées puis tous les billets étaient là. Puis là, il allait chercher un billet dans rangée D puis tout ça. Et je ne sais pas comment
ça... Il mettait-tu le mur que c'était comme la salle, tu sais, que le billet, mettons...
Oui, rangée A, rangée B, rangée C, rangée D. Ben oui, puis là, il allait chercher ça. Et je ne sais pas, un soir, ce qui est arrivé à Place des Arts. En tout cas, j'étais à Maisonneuve et puis... Il y avait première rangée, puis tu sais, à Maisonneuve, il n'y a pas d'allée. Alors, c'est un coup, il y a 80 sièges.
Ah, si t'as envie de pipi, puis t'étais
là, je regarde, il n'y a personne dans la deuxième rangée. 80 billets, ça, là. Il n'y a personne dans la troisième rangée.
Ben
non,
voyons.
80 billets. Puis là, le reste était plein. Alors, il avait oublié de vendre deux rangées.
Ah, c'est drôle.
Comment tu peux oublier deux rangées?
Pasteur, sur Internet, tu le vois avant le show, mais là, c'est toi.
Non, ça, c'était merveilleux.
En plus...
C'est dur pour les bras, par exemple. Moi, je me souviens, j'avais commencé au Jésus, première année, puis la fille qui vend des billets, décœurée de vendre des billets, parce que... Elle avait mal au bras, elle avait une bursite, elle avait une affaire au poignet, tu sais. Les billets, ça sortait. Moi, j'en venais pas d'ailleurs, là, mais c'est quelque chose, quand tu vends des billets la première fois, là.
Bien, ton premier show, c'était au Jésus.
Oui.
J'étais sûr que ton premier show, tu avais commencé direct au Saint-Denis.
Non.
OK.
Mais c'était le vieux Jésus.
Non? Et quoi, il y en a eu un neuf, pas un vieux, je sais pas.
Il y en a un neuf, là, d'à peu près 400 places, Jésus.
Quand ça?
Mais ça fait 30 ans. Hein, 25-30
ans.
OK, ouais.
Ah, OK! Je ne suivais pas des rénovations, excuse-moi. Hein, bon.
Le Jésus original, c'est il y a 2000 ans. Il est mort. Puis après, il y a un nouveau Jésus.
Oh, il est mort! OK.
Le Jésus original, c'était la salle du collège Sainte-Marie. Et il y avait comme près de 1000 places. Là, 850,
c'est une grosse salle
places.
Au début.
C'est une grande salle. Le seul problème, c'est qu'il y avait beaucoup de colonnes. Ça fait que des fois, tu payais 75 cents, mais tu étais derrière une colonne, tu ne voyais pas. mais c'est là que le Nouveau Monde a commencé. Le Théâtre du Nouveau Monde jouait au Jésus pendant plusieurs années. C'était une salle...
Moi, je l'aime beaucoup, la salle du Jésus.
Ça a été refait. Toi, tu as vu juste le nouveau.
Ben oui, le premier show, c'est en 97. On s'entend que c'est nouveau comme réno, là, quand même.
Hein? Ouais, ouais. Bon. Un moment.
Quand même.
Quand même.
Il y a des nouveaux matériaux, puis tout. Ouais. Là, Ils ont coupé
béton,
des colonnes.
Il y a du ciment. Ils ont enlevé les colonnes. Oh,
ils ont même refait dans le Jésus une nouvelle salle de 100 places.
Ah oui?
Oui, fait qu'il y a la salle de 400 puis une petite salle de 100. On dirait aux 30 ans, ils font des plus font petites des salles. Petites salles. Dans 30 ans, il va y avoir une salle de 3.
Pour un spectacle de mime, bien sûr. Ouais,
exactement.
Ouais, exactement.
Mais toi, jouer dans des petites salles, excuse-moi de t'avoir fait faire un saut. Ouais. quand t'avais le manoir, t'avais une salle de 300?
Oui, à peu près.
Pour toi, quand tu jouais, c'était quoi l'idéal de public? C'est-tu les grandes salles, les petites salles?
Moi, j'ai toujours aimé des grandes salles.
OK.
Pas Pelletier. J'ai joué souvent à Wilfrid Pelletier, mais j'aime moins ça parce que 3000 places. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'écran. Alors, le monde, il ne te voit pas.
T'étais gros de même.
Mais Maisonneuve, ça, j'aimais bien ça. En bas de 500 places, je trouvais ça difficile. Parce que ça dépend du genre d'humour que tu fais. Moi, j'avais quand même l'humour un peu des fois... comment je dirais ça? C'était pas toujours drôle. Okay. Moi, j'avais un humour pas toujours drôle. Et quand c'était drôle, fallait que quelqu'un s'en aperçoive.
Oui, pour que vu que...
Et ça prend bien du monde. Des fois, ça prenait bien du monde pour qu'il y ait deux, trois qui rient à une affaire. Mais oui, qui dit « Oh, regarde, c'est drôle. » Là, il y en a deux, trois qui partent.
Enfin, comment ça, j'avais pas compris, moi?
Non, mais dans des petites salles, le monde est plus gêné. Ils n'osent pas.
Oui, c'est vrai.
J'aime mieux plus grand.
Ouais. Je pense qu'il y avait du monde que, quand il allait te voir, au début, il riait pas, il était choqué. Mais là, quand tu voyais tout le monde rire, il se disait « Hey, j'ai de l'air d'un épais, je vais rire moi aussi. » Puis après ça, il finissait par embarquer.
Non, mais je vais te dire plus que ça. Quand je sais pas comment... À Québec, mais quand je jouais à Montréal, à un moment donné, je jouais quand même longtemps et je rencontre quelqu'un. Je m'en allais voir une voiture. Alors, je rentre dans le showroom, il y a un vendeur qui arrive. Ah, oh, on va voir votre spectacle dans deux semaines. Ah, ouais, OK. Puis là, il dit j'y vais aussi, il me dit une autre date, comme trois semaines plus tard. Ah, parfait. Puis il dit on y va aussi, là. Puis là. Il avait acheté trois fois parce qu'il dit la première fois, c'est bon puis on aime ça, mais on comprend pas tout. La deuxième fois, c'est mieux puis la troisième fois, là c'est bon.
C'est non, mais bon.
Mais ça montre à quel point ton humour est intelligent et à quel point lui, il était pas tant intelligent.
Mais il essayait en maudit.
Il y en a qui font des cours du soir, lui, il allait te voir.
Trois fois, tu sais. Il y a des gens comme ça qui voyaient au début. Mais faut dire aussi que, pense-y, là, moi, le genre de monologue que je faisais, qui était les unions au début, pépère, le fœtus, des choses comme ça, le monde, le bonheur, le monde ne riait pas.
Ben, il pensait que... Ouais. Il prenait vraiment au premier degré. Il pensait que c'était toi tout le temps.
C'était moi tout le temps. Mais c'était pas moi. Mais aussi, c'est pas drôle.
Ben non.
Moi, je trouve pas ça drôle. Mais,
non, c'était pas drôle, pas en tout. Yvon, non, je comprends pas ta carrière de toute façon.
Moi non plus. Non, t'as raison. Mais il y a un phénomène qui se passe. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui rient et ils trouvent ça drôle.
Oui.
Puis ils le disent aux autres.
Oui.
Là, les autres, ils viennent sachant que t'es drôle.
Fait que là,
alors, ils rient à n'importe quoi. T'es un drôle.
Oui.
Tu dis quelque chose, ils rient.
Mais en même temps, c'est quand que ça a déclenché que on rit, mais à un moment donné, quand t'écoutes le bonheur, quand t'écoutes le fœtus, tu broilles, là. Carrément, là. Moi, je l'écoutais sur mon petit 33 tours, là. Puis je pleurais, là, parce que, tu sais, le bébé, il ne veut pas sortir. Il sait qu'il ne sera pas heureux dehors, là. Mm-hmm. Puis on en connaît plein de bébés qui ne viennent mieux pas sortir. Ah. Hein? Fait que. Puis. Moi aussi, je n'étais même pas supposé d'être là. Je suis une aventure avec un gars marié, puis. Ouais. En tout cas, ça a l'air qu'elle le désirait, mais bon. Un autre affaire. C'est un autre dossier. Mais je veux dire.
Il y a des bouts pas drôles.
Le bonheur, c'est triste en colline, là. Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas d'allure.
Tu nous graffinais ça en dedans, là.
Puis en plus, le monde, il venait mélanger. en 73, je tatanais de mon personnage de la shop. Puis, tu sais, t'as un personnage, mais il est limité, le personnage de la shop. Il est un peu épais, puis il comprend pas tout, puis etc. Fait que là, j'ai dit, faut que je m'en débarrasse. Alors là, je le tue.
Oh!
Pas de tuer plus que ça. Il y a un petit gars de 3 ans. Il tue son enfant.
Ah oui, c'est vrai.
Puis il se suicide.
Oui.
C'est pas le monologue le plus drôle.
Non, c'est pas. Écrit,
c'est très. Ouais.
Tu vas te voir avec une dépression, mettons.
Oh, c'est plus vrai. Les gens étaient sûrs que j'étais fini ma carrière. T'as fini moi aussi, d'ailleurs. Mais. Écoute.
Non, mais en même temps, tu as changé le Québec, ils vont avec
moi,
ça.
Moi, j'en reviens. Je comprends.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé pas grand-chose. J'ai peut-être aidé du monde qui était triste. Ça, c'est vrai. J'ai des témoignages de gens qui écoutent les DVD quand ils sont en traitement de
c'est de quoi, leucémie.
La chimio, bon,
c'est
ça.
C'est long, ben oui.
Fait qu'ils écoutent des DVD drôles, tu sais.
C'est merveilleux.
Mais ça, moi, ça me fait du bien de savoir que j'ai aidé des gens tristes à rire.
Absolument.
Mais toi, ton écriture, c'était... T'étais épais en nous faisant un clin d'œil pour nous dire que ton gars épais, c'est pas toi, mais qui fait passer un message, tu sais, de tout ce que t'as écrit. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça, avoir cette intelligence-là dans l'écriture, tu sais. Vraiment, c'est une écriture intelligente et non pas juste pour faire rire.
Ouais. Puis c'est impressionnant aussi de, tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est de savoir, OK, je vais faire ça, ça rira pas, ça pourrait affecter ma carrière, mais artistiquement, c'est important, je le fais. Tu sais, ça, là, c'est tellement beau de penser de même, puis il faudrait que tout le monde pense de même, mais... personne n'a ce courage-là.
T'sais. Parce qu'il y a des phrases qui me sont sorties. Sa femme à la couche, là, lui, il dit, elle arrive à l'hôpital, elle était fatiguée, tu sais. Fait que j'ai dit, c'était bien trop long. Avez-vous un lit? Je peux-tu dormir? Je suis fatiguée, moi, tu sais. Fait que c'est tout à double sens, mais ça fait comme... tu pourrais le traiter de n'importe quelle manière, à n'importe quel degré, de violence conjugale, de tout ça. Ah ouais. Les handicapés qui se font arrêter avec le camion, il est bénévole, il est conduit, puis là, il dit, il peut pas être plus magané que ceux que j'ai en arrière, là. Ah. Tu sais, tu comprends? Mais c'est comme... c'est comme...
Non, ce monologue-là, il y a un bon bout, parce qu'ils sont vraiment maganés. Et puis... Il les attache avec une corde parce qu'il a peur qu'ils passent entre les citrons. Puis là, il y a un gars qui le frappe par derrière. Bang! Parce qu'il freine n'importe où. C'est un fou, il arrête n'importe où. Parce qu'il fait attention à se maganer. Puis là, le gars vient pour l'engueuler. Puis lui, il ouvre la fenêtre. Il dit, regarde ce que ça fait à mes clients en arrière. Mettons que le gars... Ah! Pas moi! C'est pas moi!
Ça,
mais jamais on aurait pu faire ça,
T'as-tu senti que, tu sais, à l'époque, même à l'époque, le monde souvent comprenait pas le deuxième degré, mais t'as-tu senti un moment donné que, OK, au début, c'était la moitié comprenait, la moitié comprenait pas. Là, il y en a trop qui comprennent pas.
Absolument.
Il faut que j'arrête.
Il faut que j'arrête, absolument.
Ah ouais.
Et ça a été assez vite.
OK.
En 72, j'ai dit, c'est fini, là, je mange plus. J'avais fait un monologue qui s'appelle l'intolérance. Il faut dire que je ne donnais pas de chance à personne. Là. On aurait dit que je ne voulais pas que ça marche. T'sais, on aurait dit que je pas ça que je voulais faire dans la vie. Alors, ça peut arrêter, m'en faire d'autres choses. Mais non, je ne le savais pas, c'est mon subconscient. Mais le monologue de l'intolérance, faut être un fou pour faire ça. Il faut être malade dans la tête. Là. L'idée, c'est de rendre le monde intolérant envers toi qui es sur la scène.
Ah, fait que tu dis juste des énormités.
Faut que tu dises des énormités. Là, jusqu'à là, là. Tu sais, puis j'avais peur toi et soir. Ah, parce que tu sais pas là, comment est-ce qu'ils vont réagir. Là, c'était tout le monde y passait, les Noirs, les Juifs, tout le monde. Tu sais, ça y allait par là. Puis des soirs, le monde est fin.
Ah, le monde riait. Ah, c'est vrai que son
fait même. Que là, là, ben oui. Là, là, ça va mal en maudit. Là.
Ah, je suis pareil comme toi, ils vont pareil.
Ah, ouais. Non, mais finalement, et c'était tellement absurde. Parce que là, aussitôt que quelqu'un me criait un nom quelconque, baveux ou n'importe quoi, là, je disais, c'était sur l'intolérance, ça parlait juste de l'intolérance, les intolérants. Fait que là, je disais, en voilà un intolérant! Je le tolérerai pas, sacré les doigts! Alors, c'est l'absurde total. Puis là, tout le monde, les musiciens et moi, là, la scène devenait rouge, puis on marchait au pas militaire, puis on criait, à bas les intolérants! C'est rien. Ça n'a pas passé, mais pas du tout. Là, j'ai dit, je suis mieux d'arrêter parce que le monde me parlait. Mais le monde est tellement fin qu'il me prenait en pitié. Je fais, oh, dans ce temps-là, m'appelait Yvon. Yvon, ils ne devraient pas faire des affaires comme ça. Ça a eu des gens que je ne connais pas.
Ah oui? Tu ne devrais pas dire ça.
Tu ne devrais pas dire ça. Yvon. Voyons donc. Et puis, tu sais. Fait que là, j'ai dit, je vais arrêter. J'ai arrêté un an complètement. C'est-à-dire, pendant un an, j'ai pas écrit. J'ai dit, c'est fini, cette période-là, on fera autre
chose. Pensais-tu que tu allais redevenir comédien ou tu allais apprendre le drum pour de vrai?
Non, j'avoue que j'ai pas pensé à rien. J'ai vraiment pris un an.
Vraiment un an?
Un an.
Puis tu disais-tu, OK, je retourne pas sur scène, c'est fini?
Non, j'ai pas dit ça. Je vais arrêter un bout.
OK.
Et puis, mais comme j'avais Guy Latraverse, qui attendait.
Puis, comment t'es rendu en écriture, Yvon?
Voilà.
Combien de pages?
Combien? On recommence-tu, là? On recommence-tu? Finalement, on a recommencé. Mais, autrement, non, je dis ça. Écoute, je veux pas vous achaler avec ça, mais je reviens à un nouveau show, OK? Là, j'ai fait l'intolérance qui n'a pas passé. Là, je reviens à un nouveau show et c'est dans ce show-là que je décide que c'est fini et que le personnage tue son enfant sur scène.
Oh, fait que toi, quand tu t'étais dit « Je suis allé trop loin, je vais prendre un petit break.
Ouais.
OK, je reviens. Il va revenir, il va tuer son enfant.
Ouais.
Il va se suicider. Yeah. Je suis rendu grand public.
Bon. » Faut être malade, hein?
Mais ça, le premier soir, tu as fait ça, il devait avoir un stress monumental, tu sais.
Ben non.
C'est vrai?
Non, parce que moi, je vais dire quelque chose, je suis inconscient.
Ouais. On s'en était douté, par exemple.
Moi, j'ai un peu comme Jacques Normand disait, j'ai une lettre de mon psychiatre qui prouve... que je ne suis pas responsable de ce que je dis.
Je ne suis pas responsable
de ce que je dis, non. Non, mais en fait, moi, je pense toujours que j'ai toujours pensé que je faisais du théâtre. C'est ça mon problème. J'étais un acteur et c'est le théâtre qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai choisi le monologue au lieu du stand-up. Donc, tu crées des petites pièces avec un personnage qui joue... que tu choisis pour un thème particulier, comme quand j'ai fait mon monologue on ne peut plus nommer aujourd'hui, là, qui commence par N. C'est un enfant, le personnage. Il y a 10 ans, le personnage.
Ouais, ouais.
Tu sais, alors, c'est autre chose. Là, c'est pas... c'est vraiment une petite pièce. Alors, moi, je faisais du théâtre. Donc, c'est du théâtre, là. Je me disais, il faut que les gens passent par toutes les émotions possibles. Je vais les faire rire, mais aussi je vais les inquiéter. J'aimais ça créer des malaises.
Tu nous traitais souvent d'imbéciles, mais avec un clin d'œil, par exemple.
Avec un clin d'œil.
Ah ouais, demain.
C'est pas
mais quand
vraiment...
tu as fait ton premier monologue à l'Hostie Show, c'est ça qui a déclenché le... Ben là, tu dis que tu faisais du théâtre, mais je veux dire, quand tu as fait ton monologue la première fois, il s'est passé de quoi? Pour que tu fasses « OK, je continue là-dedans » au lieu d'aller tout le temps dans une pièce?
C'est ça. Ben
c'est
en
pas
fait,
clair,
c'est,
hein,
c'est
ce
c'est
que
non, c'est 100% clair.
OK, d'accord.
C'est 100% clair. Écoute, premièrement, je n'ai jamais pensé, même même quand on a fait le show. Moi, j'ai jamais pensé faire d'humour. J'ai jamais pensé faire des monologues. Jamais.
Je trouve ça absurde quand tu dis ça. Oui. Ça fait une couple de fois que je t'entends dire
mais
ça.
Oui, j'ai puis, jamais pensé
Chris,
à ça.
Il y a du monde que je vois qui ont zéro talent, ouais. qui sont comme « Je suis né pour ça! » puis toi... Toi qui es le plus grand de tous les temps, t'es comme moi, ben tu sais, je pense pas à ça. Je pensais pas faire ça.
Mais non. Mais j'étais un bon raconteur. Tu sais, même enfant, là, si on allait voir un film, là, je le racontais à mes amis, ils voyaient le film après, ils trouvaient le film plate. Moi, j'avais. Parce que moi, j'en mettais, tu sais, je trouvais des idées. Mais quand on a fait le Stitch Show, moi, c'est Robert Charlebois qui m'a fait faire un monologue. Parce que quand on a fait juste une production du Catsu, ouais, c'est moi qui produisais.
Ça devait être un sketch à quatre.
Oui, ça devait être un sketch à quatre. Et c'est Robert qui a dit, je vais te faire une toune parce qu'il avait entendu Arlo Guthrie à Alice's Restaurant. Puis il a dit, on va faire quelque chose dans ce style-là. Il m'a joué de la guitare. Puis toi, tu vas conter l'histoire au monde au lieu qu'on la joue. Alors, c'est moi qui l'avais écrit le sketch. Alors là, je l'ai transformé. Et ça a donné les unions que ça donne.
Les unions que ça donne, OK.
Alors, donc, le début de ma carrière, complètement.
Ah ouais.
Et là...
Que tu vois, cette clap-là, tu vois que le monde voulait que ça soit une clap plus forte, mais ils te respectent tellement qu'ils ne voulaient pas te déranger dans ton histoire. Fait que tout le monde faisait « On veut applaudir parce que c'est un grand numéro, mais... » On veut pas déranger. Tu sais, tout le monde était comme, excusez-moi.
Non, mais même là, écoute, même là, je pensais pas que ça continuerait. On a joué trois semaines. Là, Guy Latraverse...
Toi, tu pensais, à la fin de le Stitch Show, t'allais retourner à...
Je restais au Catsu, je vendais des tickets. Ouais. Je travaillais avec Paul, je voyais le théâtre. Des fois, je dis, va me trouver un rôle dans quelque chose. Mais je veux... Moi, je... C'est merveilleux, je suis une personne qui n'a jamais eu d'ambition.
Ah ouais. C'est vrai.
Jamais.
Je t'ai devenu un monument, quand même.
Ouais.
Mais tu sais, moi, je fais le job que je fais. Et c'est le succès de Robert Charlebois, qui est devenu un phénomène, qui a fait qu'on a repris.
Qu'est-ce qui est plus big, un phénomène ou un monument? Juste.
Un phénomène social, musical, écoute, c'était fabuleux. Donc, on a rejoué le studio, puis on a fait une tournée. Et là, Robert arrive avec une nouvelle chanson. J'ai dit, on va me faire un petit monologue nouveau. Il y avait eu la Saint-Jean-Baptiste, la fameuse Saint-Jean-Baptiste de 68, là où...
Ça a brassé.
Ça a-tu brassé? Alors, j'ai écrit ce petit monologue-là. Et sur scène, je me suis mis à improviser. Puis j'avais du plaisir. Puis on faisait un sketch à trois. Et là, à un moment donné, je pense que c'est Mouffe qui continuait à un moment donné. J'ai dit, écoute, la ligne que je te donne, c'est ça, mais attends-la parce que je vais dire d'autres choses avant. Alors ça s'allongeait, puis ça s'allongeait.
Elle attendait pour sortir sa ligne.
Elle attendait sa ligne, c'était long. Mais ça, c'est devenu un autre petit monologue cute qui s'appelait La violence. Puis c'est ça.
C'est cute! Tout léger.
Très léger.
C'est léger.
Oh, c'est très léger. Non,
on dirait ton metteur en scène, c'est Rocco Magnotta. Ah, c'est...
Oh boy. Non, c'est ça. On avait encore dans ce temps-là la Saint-Jean avec le petit mouton.
Oui.
Oh, maman. C'était notre symbole. Alors, en improvisant, à un moment donné, c'est ça... Là, je pars, là. Puis, comment est-ce qu'on est fiers? Puis, levez-vous si vous êtes fiers, je se lève tout. Puis là, je dis, pas étonnant qu'on ait un mouton comme emblème.
C'est-tu de bon gag? Très bon gag. Très, très, très bon gag.
C'est du Mike Ward, ça.
Mais c'est ça. L'improvisation, c'est bon.
Tu peux bien l'aimer, Mike, hein?
Ouais, ben oui, j'aime beaucoup Mike.
Hey, je veux faire... Yann, il doit avoir bien des questions. On est rendu déjà... ça fait 1h15.
Ouais.
Déjà 1h15.
Ça passe vite.
Ça passe vite quand on est chaud. Oui.
Il y en a une bonne, Julie, qui est ici dans la salle d'ailleurs, qui me l'a
demandé. Oh, bon.
Allô, Julie!
Salut, Julie!
Si un seul numéro devait
t'aurais dû changer sa question pour demander quelque chose de vraiment stupide pour qu'elle sente mal d'avoir crié. C'est comme ouh, c'est juste la question, c'est comme c'est qui le monsieur dans le milieu? Excuse-moi, la question à Julie.
Ouais, c'est ça. Sans parler, admettons, de votre numéro le plus populaire, là, si un seul numéro devait définir votre carrière, vous faire découvrir à quelqu'un qui sortirait de sous une roche, quel serait-il? Admettons le numéro qui vous définit le plus.
Pas facile.
Les ou moi?
On va faire
les trois.
Les deux.
Les trois.
Non, non.
Deux. Même Mike. Ouais.
Les trois.
Ouais, envoie donc.
OK, Julie dit les trois. Tabarnak, hein. Chris, il va marcher les fesses serrées, hein? Je suis stressé un peu, là.
C'est moi, dur. Moi, je sais pas. Naturellement, je dirais les unions que ça a. Oui! Parce que c'est la naissance du personnage, et puis c'est ce qui a amené tout le reste, alors...
Julie dit bravo, merci.
Bon, ouais. Parfait.
Moi, c'est le point G, puis oui. Le point G, puis la femme afghane. Je pense que c'est... Parce que, ce qui m'épate, puis c'est les journalistes qui m'en parlent à chaque fois, c'est que j'ai sorti ça 3 semaines après les événements du 11 septembre. Mais tu te souviens, je t'avais appelé. Tabarouette, j'en viens pas. Je sais pas si j'aurais ce culot-là maintenant. J'ai-tu mis un si avec un ré encore? Moi, je vais arrêter l'eau citronnée, là. Moi, ça me fait pas. Toi, Mike, ouais?
Moi, je pense... je le sais pas.
Il y en a un, faut pas tu nommer, tu sais.
Ouais. Quoique, non, depuis la semaine passée, je peux le nommer. moi, je pense... Ben, ça serait aussi... moi, ça va être mon... C'est mon le numéro qui m'a fait connaître. J'avais écrit un numéro quand ma blonde m'a laissé, qui s'appelait « Avoir venir », que c'est... Elle est revenue à cause de ce numéro-là, en plus. Puis on est encore ensemble 20-quelques années plus tard. Fait que ça serait ça, ouais. Ouais. Fait que... Yann, y a-t-il une autre question?
Pour les trois encore.
C'est encore de Julie?
Hein? Non. Okay. C'est de Marc-André qui demande si on devait faire un film biographique sur vos vies, qui verriez-vous jouer votre rôle?
Moi? Moi?
Moi, je le sais pour moi.
Ouais?
Bradley Cooper. ça doit être insultant.
Ça serait Roseanne Barr, moi, mais elle est pas mal... elle est pas mal brûlée, là. On s'entend que... Elle a trop parlé.
Elle a dit des mauvaises...
Elle a dit des mauvaises affaires. Oh. Moi, c'était mon idole. Même je comprenais rien de ce qu'elle disait. J'aimais ça au bout.
Elle était vraiment drôle.
Ça n'a pas de bon sens. Puis toi, Yvon, qui jouerait ton personnage?
Moi? Oh boy. Je sais pas. Aucune idée.
T'as aucune
peut-être
idée?
Martin.
Martin. Lequel Martin? Il y en a 400 dans les mots.
Il y a juste ça. Il y a juste ça des Martins.
Ouais.
Non, Benoît Brière.
Ah ben oui.
Qui a joué.
Qui a joué tes monologues.
Donc, qui a joué le gars de l'achat.
Oui.
Très bon, lui, Benoît.
Oui. Benoît, bon choix.
Très bon. Y a-t-il une autre question, Yann?
Il y en a des bonnes.
Était bonne.
Oui. Francis qui demande à Lise, comment tu t'es ramassé à jouer le rôle de Laura Cadieux à la télé?
Ben oui.
Et comment tu as trouvé l'expérience?
C'est parce que Ginette Renaud ne voulait pas. Mais ben, c'est vrai, elle ne pouvait pas.
Elle a fait le film.
Fait que là, ils ont dit, y a-t-il une petite totoune au Québec qui pourrait remplacer?
Ginette Renaud, t'as-tu contacté un coup que t'avais commencé à le jouer?
Non.
Pour... Ah non, pas sûr qu'elle t'a trouvé bonne, parce que t'étais bonne là-dedans.
Ben oui.
Ben, me l'a pas dit vraiment. Okay. Peut-être la prochaine fois qu'elle va me voir, elle va me
Tu l'as-tu vu depuis ou...
Ginette, non, je ne l'ai pas vu.
Tu l'as-tu déjà rencontré? Tu l'as...
Oui. Mais tu vois, moi, Laura, la première année, tout était nouveau, là. Pas de réaction du public. Quand tu tournes, tu sais, Fait que là, il manque quelque chose. J'étais moyennement bonne, mais j'avais des comédiennes extraordinaires avec moi qui... Quand tu joues avec quelqu'un qui...
Avec du bon monde, tu deviens automatiquement meilleur.
Des comédiens extraordinaires, tu deviens meilleur, comme quand tu danses avec un bon danseur, tu sais. Mais là, je me suis raffinée... j'ai raffiné mon jeu la deuxième année, puis la troisième. J'aimerais ça rejouer, mais... Puis en plus, c'est du Michel Tremblay, dans le sens, c'est d'après Michel Tremblay.
C'est l'univers mon idole de aussi, Michel Tremblay,
ben c'est ça. Mais je te dirais que de tourner devant une caméra, pas de public, tu sais pas si c'est bon, tu sais pas... Toute la série est tournée quand ça joue, puis là, c'est dur de réparer les erreurs, tu sais.
Il y a une affaire, je sais pas si toi t'es de même, mais moi, le peu de fois que j'ai joué devant la caméra sans public, tu sais, un acteur, ils vont dire « OK, reprends-le », puis tu vas le reprendre à peu près de la même façon, mais tu vas l'améliorer un peu. Tandis que moi, je change tout. Vu que je fais comme si c'était du public, puis là, je suis comme, ben non, le réal a vu ma première version, je veux le surprendre. Fait que là, ça devient un désastre.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà arrêté, j'avais joué dans une émission avec Michel Barrette. Colin, je me souviens plus de... Hein? Oui.
Kilomètre heure?
Non.
OK.
L'émission où il était policier avec avec David. En tout cas, je m'en souviens pas, c'est pas ça qui est important.
Là, il n'y a personne qui se souvient de cette émission-là. Michel Barrette joue un policier.
Oui.
Y a-tu quelqu'un
David,
qui serait.
David, tu sais. Oui.
Gentleman.
Oui, le gentleman.
OK.
Puis là, il y avait un gars qui me cruisait là-dedans, un comédien qui s'appelle Guy Tauvette, mais il l'avait tellement bien, là, que. Là, il me passait sa bière froide sur le bras, puis là, j'ai tapé les réalisateurs, j'ai fait, je sais plus quoi faire, là, je sais plus quoi faire. J'ai dit, arrêtez la caméra, là, je vais me reprendre, là, OK, je vais être correct. Ouais. Mais il était tellement bon, là, ça avait l'air vrai, ça crouse, puis j'étais mal à l'aise, là. Là, j'étais comme, là, j'ai dit, OK, on repart la caméra, je vais faire, je sais pas quoi, là, fait que il est reparti à la caméra, j'ai fait niaiseux, j'avais l'air d'un en tout cas. Puis pour Laura Cadieux, la première fois, une des premières scènes, c'est il fallait que je pleure. Il y a quelque chose de plus dur que ça.
T'es-tu capable de pleurer?
J'étais capable ce soir-là. C'est pourquoi les filles m'ont dit, Lise, t'es bonne, t'étais capable de pleurer. À quoi t'as pensé? J'ai dit, je veux m'en aller chier.
Ah, que c'est drôle.
C'est pas heureuse, mais pas pâte. Ou comme, tu sais, les comédiens, mettons, on faisait des brassées de lavage dans leur casier, puis la comédienne Adèle Reynard est tellement bonne, là. Là, elle me dit, on va faire une brassée de lavage, OK? Moi, je pogne la chose de savon, il est vide. Mais il ne faut pas que ça paraisse qu'il est vide. Elle pogne le savon, ça avait l'air pesant. Elle fait semblant de mettre le liquide. Moi, je pars avec le savon de même, tu sais, comme... Tabarouette! Non, je ne suis pas... Mais c'est vrai que j'ai suivi mon cours d'acting à Laval, tu sais, ça fait que c'est...
T'avais-tu pris des cours, t'as eu du coaching?
Oui, j'ai eu du coaching avec Denise. Avec Denise, mais j'ai pas été
dans une école. C'est quand même un bon coach, ça?
Oui, c'est un très bon coach, ouais. Une fois, elle voulait que je séduise mon mari. Ça aussi, c'est dur parce que quand t'es comédien, là, faut que tu te dénudes devant... Pas te dénuder, mais... mettre ton intimité en jeu, tu sais. Puis là, il fallait que je séduise mon mari. J'étais à côté sur le cadre de porte de même avec la patte de même, tu sais, comme si j'avais des patins à glace dans les pieds, tu sais. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais là? Denise aime ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je sais pas. J'essaie de séduire mon mari. Je sais pas quand. Fait qu'elle me dit, mais non, c'est pas beau quand tu fais ça. C'est pas beau. J'ai OK. Mais j'ai dit, si j'avais eu des patins dans les pieds, ça aurait été écœurant. Hein? Mais bon. Mais il m'en est arrivé une couple des affaires de mal.
C'est
drôle.
Drôle, ça. C'est très drôle. Tu penses-tu, à un moment donné, c'est-tu quelque chose que tu aimerais refaire, jouer dans une série?
Ben oui, mais c'est pas l'affaire que j'aime le plus. Moi, j'aime mieux le contact vrai avec le public. J'aimerais ça peut-être être derrière la caméra. Pas devant, nécessairement, parce que, tu sais, admettons, n'importe quoi, là, mettons qu'il y a des tracks avec la caméra qui roulent, là. Bon, là, moi, il faut que je passe par-dessus sans que ça paraisse, là.
Tu vas regarder.
Je suis pas capable. Okay. Je suis pas capable, ça paraît, j'suis à l'écran, man. Tu sais, gros. C'est laid, là. Fait que, j'ai pas le don de ça. Mais j'aimerais ça, peut-être, une fois dans ma vie, jouer un anti-moi.
OK.
Tu sais? Quelqu'un qui est hyper triste.
Genre une méchante ou...
Oui, une méchante. Vraiment une méchante pour voir comment...
Ah oui, ça serait fou si tu jouais genre une tueuse ou, tu sais...
Ben, je pourrais tuer les enfants d'Yvon, tu sais.
Ah ouais.
Mais Yvon, il était bon au cinéma aussi, hein?
Oui.
T'as-tu aimé ça, le cinéma?
Ouais. Lève ton micro, sinon Yann va se fâcher.
Non, j'ai pas. Mais j'ai fait une affaire qui se fait pas au cinéma. J'avais tourné un film de Michel Tremblay, d'ailleurs, Le soleil se lève en retard, avec Rita Lafontaine.
Oui.
C'était très cute. Mais c'est acting, tu sais, acting. Mais moi, là, à un moment donné, on s'embrassait. Je l'ai frenché, Chris. T'as pas de bon sens, tu fais pas ça une actrice. On a fait 4 takes, elle a rien dit.
C'est très bon! Yes!
Très drôle. Là, Judy, elle va te dire quelque chose, par exemple. Yann, j'irai avec une autre question.
Il y a une question, le fun. C'est quoi O3? C'est quoi? Ça va être quoi votre première voiture?
Moi, c'est bien plate. C'est une Sprint de Chevrolet.
Elle était quelle couleur?
Elle était or.
Oh!
J'avais payé... c'était 3 900. Puis hey. Elle avait juste 2 ans. Tu sais, elle était quasiment neuve.
À l'arrivée de Memphis.
Ouais, mais... tu sais, c'était un 3-cylindres. Fait que ça roulait à 135 dans le fond. Puis des fois, tu pognais 139 si t'étais dans une côte. Mais je l'aimais, cette charge.
Ouais.
Toi?
Moi, j'ai eu une Honda Civic Hatchback, là.
OK.
Je l'ai payé 500$. J'étais contente. J'arrive au lavoto, plus capable de la repartir.
Oh, ouais!
Super.
Ah. Fait qu'elle était propre pour la cour à scrap.
Elle était propre pour la cour à scrap, mais j'ai réussi parce que le câble distributeur sur les bougies, le chapeau qui va sur les bougies, l'eau, elle rentrait dedans. Fait qu'il fallait que tu traînes un séchoir à cheveux avec toi.
C'est vrai!
Puis l'hiver, mes portes, j'étais obligée de les attacher avec les ceintures de sécurité parce que ils gilaient. Fait que là, j'embarquais par la valise hatchback. Mais il n'y a pas de poignée en dedans pour ouvrir la... Fait que là, je débarquais comme ça, l'auto.
T'avais-tu tes enfants à cette époque-là?
Non.
OK. Parce que j'imaginais...
T'es voyais rire de moi.
Non, mais non. J'imaginais juste à cette heure, on met les enfants dans un siège de bébé jusqu'à temps qu'ils aient 14 ans, à peu près. Puis à cette époque-là... Tu sais, de rentrer, tiens, rentre par la hatchback. Non. C'est un peu stressant. Toi, Yvon, ton premier char?
Un Nash.
Un quoi?
Un Nash.
Un
Nash? Nash.
Lui, il venait de Nashville, c'est ça?
Non, un Nash existait dans ce temps-là.
Nash, mais c'est qui faisait ça? Qui faisait ça?
Nash.
OK, c'était ma dernière question, Yvon, c'est correct, OK.
Non,
c'est ça qui est drôle, tu sais.
On te parlait qu'on n'attachait pas le monde. Quand ma fille s'est mariée, notre fille s'est mariée avec un Mexicain, beau grand gars, à un moment donné, ils sont venus, toute la famille. Alors, ils arrivent dans le stationnement chez nous et je ne sais pas quelle sorte d'auto qu'il y avait, mais en tout cas, ils débarquent. Ma fille, son mari... les parents, puis il y avait un de ses frères. Puis là, ils vont en arrière, ils ouvrent le coffre, et là, la plus jeune est dans le coffre, elle.
OK.
Sur un oreiller, dans le coffre.
Ben voyons. De même, pas de siège, pas de...
Non, pas de...
Sur l'oreiller.
Un vrai coffre.
Tabarouette.
Sur un oreiller, puis les autres, c'est normal. Ouais. Pas de place dans le char, mais aller dans le coffre.
Mais c'était le même ici, dans le temps, tu sais.
Moi, j'ai dormi dans les station wagons quand j'étais jeune. Tu sais, avec du bois à ses côtés, là.
Ah ouais.
J'ai dormi là-dedans, on allait voir des feux d'artifice, on allait voir au cinéma. Ah. J'avais 8-9 ans, j'ai tellement trippé, là. C'est le fun de faire ça.
Oui, absolument.
Avec un mononcle sous qui conduit avec une bière
entre les deux jambes.
Mais on ne regardait pas en avant. Fait que...
Mais c'était correct parce qu'il n'y avait pas de ceinture.
Ouais. Ben c'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est juste dangereux si t'es attaché.
Il pouvait se sauver tout de suite si la police arrivait. Tu sais.
Oui.
Ouais.
C'est quoi l'autre question?
Ouais. Là, je suis pas mal sûr qu'il y a en ce moment... 1000 personnes qui sont en train de googler Nash. Juste.
Il y a Marc-Antoine qui pose une question, je vais la généraliser. Okay. Puis, en fait, je vais la poser aux trois. Est-ce que, parmi tous vos projets, est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez que, admettons, la relève reprenne en main ou fasse un reboot, admettons, une émission de télé, un film que vous aimeriez, tu sais, que quelqu'un prenne en main, Samedi de rire, admettons, fait par des jeunes ou quelque chose comme ça?
Moi, j'étais pas là Samedi de rire, fait que...
Ouais.
T'aimerais-tu? Il a généralisé, mais tout juste pour une personne.
Il faut être vieux, là, pour qu'on veut que des jeunes reprennent. C'est ça l'idée, que des jeunes reprennent nos affaires? Ouais.
Ah, mais bon. Tu sais, comme toi, t'as eu... tu sais, t'as Benoît Brière qui a
fait la pièce.
Oui. Ah. T'as Guylaine Tremblay aussi qui a repris tes chansons.
Oui. Il y a Stéphane Rousseau. Quand il a fait sa tournée en France, il faisait Les Bébés, lui. C'est Les Bébés.
Ouais.
Mais c'était très bon, Les Bébés. Écoute. Et là, il y a tout un projet en ce moment... qui a commencé, c'est Guillaume la Petite Vierge, qui m'avait appelé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Tu sais, Guillaume, il parle, puis là, j'ai un projet, puis on fait ci, puis on fait ça. Là, tu n'entends pas parler pendant 3 mois. Alors, mais finalement, il m'appelle, il dit, c'est correct, je veux monter un spectacle avec tes monologues. Je dis, c'est correct. Il dit, ça serait 6 femmes qui disent, tes monologues, t'sais. Ah, c'est bien correct. Écoute, il y a plein, ils peuvent faire plein, le bonheur, n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Et là, je n'entends plus parler. Je n'entends plus parler pendant longtemps. Et là, il m'appelle il y a quelques mois, je dirais. Et là, il y a tout un projet. Écoute, là, Robert Lepage s'est mêlé là-dedans. Là, il semble que ça va être très théâtral. Ça ne sera plus 6 femmes qui font les affaires. Robert Lepage, c'est assez théâtral, le Robert. Alors, là, ils vont faire, par exemple, qu'il y a des monologues qui vont faire jouer par plusieurs personnes, comme des personnes qui se parlent.
Okay. Comme les pièces, dans le fond, hein?
Okay. Ouais,
chaque monologue devient une pièce?
Oui.
Comme tu faisais au début, dans le fond?
Non, mais moi, je le racontais. Eux autres, ils
jouaient. Mais ils vont les jouer, avec différentes personnes.
Les personnages joueraient, alors...
C'est
un projet. Là,
ça va devenir tes monologues si, Charlebois, t'avais pas dit « fais-le tout seul ». Tu sais, dans le fond...
Ben oui. C'est ça.
C'est ça. On revient.
On revient loin.
Ouais, on boucle la boucle, là.
Oui. Alors, il y a ce projet-là.
Moi, non.
Guylaine, et puis je me dis que pour des jeunes, il y a quand même certains des monologues, si on prend mon personnage du bon monsieur, ce que j'appelle, parce que c'est un bon monsieur, mais il y a des préjugés. Mais c'est une bonne personne et tout ça. Mais tu sais, quand il parle, j'ai un monologue sur les Chinois, qui j'ai écrit il y a 25 ans, mais qui est très, très d'actualité.
Ben, il y en a plusieurs de tes monologues qui sont d'actualité.
Mais je pense, tous tes numéros, C'est juste, des fois, c'est changer un mot. Ouais. Juste vu que les choses qui choquaient à l'époque, c'est pas exactement les mêmes choses qui choquent aujourd'hui. Puis, ou c'est les mêmes choses qui choquaient, mais à l'époque, ça froissait un peu. Mm-hmm. Puis là, en ce moment, le monde crisse le feu au théâtre. Là, ouais. Fait que, c'est juste savoir, OK, cette bout-là, on va le couper. Ouais. Celui-là, on va l'exagérer.
Ben oui, ah. non, c'est ça. Ben oui. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. Mais les Chinois, j'aimais ça, parce que je ne l'ai pas fait longtemps, que c'est un de mes derniers. Et la prémisse de ça, c'est de dire que nous, on est à peu près 1 milliard là, de gens qui vivent dans des pays industrialisés avec le genre de train de vie qu'on a. Mais on est 1 milliard sur 7 milliards. Mais nous, notre milliard, pour vivre comme on vit, ça prend la moitié des ressources de la Terre. Puis là, les Chinois veulent vivre comme nous autres, puis ils sont 1 milliard. Puis on ne les laissera pas faire. Il faut qu'ils pensent aux Africains puis aux Indiens.
Bon. Ça reste bon.
Pas de bon sens, laisser les pauvres mourir comme ça.
Hein? Vois-tu, ça passe encore à 100% ça.
Oui, ça passe bien, ça. Oh, ouais. Les Chinois, ça, c'est correct. Mm. Tu peux dire chinois encore.
Oh, oui, ben oui. Oh, ouais. Juste, on peut, ouais. On peut. Attends. Ah non, on peut plus le dire, là. Non. On peut plus.
Mais ouais, puis toi, mais Mike, ça, excuse-moi. Puis
moi,
toi?
Ben, tout. Tu sais, moi, parce. Tu sais, comme Yvon, ses monologues, il voit ça comme du théâtre. Fait que du théâtre, tu peux le reprendre. Ouais. Tandis que moi, je vois ça comme. C'est mes affaires. Fait que je serais juste fâché. Je serais juste comme, pourquoi tu fais mes affaires? Arrête.
Mais tu verrais-tu, admettons, des jeunes reprendre puis faire les enfants de Chabot et Poudy?
Ah, ou... mais mettons, ouais, mettons le gros show, j'aimerais ça, ou Simon et Henri,
ouais.
J'aimerais ça. Ou même sous-écoute, quand je vais mourir, s'il y a un humoriste de la relève qui veut reprendre ça, vas-y. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais juste mon stand-up, je veux juste le garder pour moi. Mais toutes mes autres affaires, refaites-le. S'il y en a qui veulent faire testostérone, faites-le. Ça a bien vieilli, ça. Ça, là, il n'y a rien qu'on faisait dans testostérone qui ne passerait pas aujourd'hui. Ça. Il reste combien de bonnes questions? Puis ça fait combien de
temps? Il y en a une bonne, là, parce qu'eux autres, ils ont pas vu. Les gens n'ont pas vu avant l'intro, mais il y a beaucoup de monde qui demande c'est quoi la tasse sur le milieu?
La tasse, est-ce qu'ils sont encore en vente dans les gens coutus?
Non, pas les gens coutus.
OK,
juste chez nous.
Sont ici. Fait que pour les gens qui écoutent ça à la maison,
vous venez de manquer une tasse.
Mais c'est une tasse pour la fondation à Yvon. Comment ça que Jean Coutu a arrêté de les vendre?
Je ne sais pas.
Il faudrait, mais c'est, ouais, c'est ça, c'est une tasse. Est-ce qu'on peut l'acheter sur Internet?
Non.
Non? OK, fait que c'était... C'est juste une... Ouais,
c'est une tasse.
C'est une bonne réponse.
Non, Mike. C'est une tasse.
C'est une tasse, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, c'est la seule tasse et 4 000 $. C'est 4 000 $.
C'est une tasse. Une tasse.
Mais une tasse, hein, s'il vous plaît.
Ouais, pourquoi c'est pas vendu chez Jean Coutu? On en a juste une.
J'ai fait un saut.
Oh. Mais c'est parce que j'écoute tout ça. Et alors, c'est la tasse « Aimons-nous ». Et à l'intérieur, ça dit « Quand même ». Et il n'y a pas un plus beau message qu'on pourrait donner aujourd'hui que « Aimons-nous ». Et les deux mots les plus importants, quand c'est « Quand même ». Malgré tout, malgré nous. Alors, c'est au profit de la Fondation Yvon Deschamps, Centre-Sud.
Mais où est-ce qu'on peut en acheter?
On achète seulement ici ou au Centre-Sud directement. Ils ont été chez Jean Coutu pendant une courte période de temps, mais on avait juste
tant de mois. Okay, okay. Et c'était fini l'idée. Et voilà. Donc, il en reste ici au centre-ville.
Merci. On n'aurait jamais dû la mettre sur la table.
Oui, on n'aurait pas dû la mettre sur la table. Effectivement. Merci, Judy. Ah, j'ai vraiment fait un saut quand Judy est arrivée. J'ai passé proche à appeler la sécurité. Ouais. Mais si on peut pas... si vous allez au centre-sud, puis pas la région du centre-sud, là,
le
centre lui-même, vous pouvez l'acheter. Et sinon, allez sur pouryvon.com, faites un don, t'auras pas de tasse, mais va t'acheter de la petite peinture, puis écris avec un Sharpie sur ta tasse, pouryvon.com. Et on finit-tu avec une dernière question?
Colin, les bonnes ont pas mal toutes été posées.
OK, fait que j'aurais dû finir pendant que Judy était sur scène, puis il y aurait eu une grosse clap, puis des feux d'artifice. C'est
ça. Oh, il y a des feux d'artifice!
Il y a des feux d'artifice, oui!
En tout cas, moi, je voudrais pas qu'on finisse sans te dire merci au nom de tous les humoristes, premièrement, pour le travail que tu as fait et d'être rendu jusqu'en cause suprême. Ça va aider beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et merci pour la troisième fois que tu m'invites et que tu aides la Fondation. C'est merveilleux.
Merci, Yvon. Merci beaucoup.
Gars super.
Merci. On va... Pour vrai, c'est tellement un honneur de... En plus, la première fois que je t'avais invité, que tu étais venu, là, j'étais parti en me disant « Wow, c'est une chance d'une vie de passer... » 2 heures avec Yvon Deschamps. Il posait n'importe quoi que je voulais y poser. Et je me suis dit, ça n'arrivera plus jamais. Puis l'année d'après, tu m'as appelé. Puis t'as dit, j'aimerais ça le refaire. Puis la beauté de ça, c'est que t'amènes tout le temps du monde super intéressant. T'sais, l'année passée, c'était Claude Meunier. Là, cette année, Lise Dion. Fait que si tu veux devenir mon nouveau booker, moi, je veux... J'aimerais beaucoup ça. Mais on va finir là-dessus. N'oubliez pas, allez donner, tu sais, pour Yvon.com, donnez généreusement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont, tu sais, avec la pandémie, il y en a qui ont moins d'argent. Ouais. Si t'as pas d'argent, donne pas. Mais si t'as un peu d'argent, 4 piastres, donne 3 piastres. À la limite, si t'as beaucoup d'argent, sois généreux avec ton argent. Merci beaucoup.
Juste ajouter, Mike, que les enfants qui vont au Centre-Sud, ils ont une évolution qu'ils n'auraient peut-être pas eue en restant juste autour du village.
Vraiment.
Ils ont leur chance d'aller plus loin, d'avoir des passions, d'avoir, tu sais, c'est vraiment important.
Fait que ton 10 piastres peut changer une vie. Pour vrai,
ça peut changer une vie.
Parce que tu sais pas ce que tu donnes à l'enfant dans sa tête, tu sais. Si tu l'amènes backstage, il va vouloir te suivre backstage, tu comprends? Si tu l'amènes avec une passion d'électricien ou de n'importe quoi, pas dans notre genre, là, mais je veux dire, un bon électricien, tu sais, c'est qu'il faut que tu développes sa passion.
C'est ça.
Mais si tu lui donnes pas d'outils pour le faire, ça s'arrête là.
Il faut que les jeunes puissent avoir l'horizon le plus grand, le plus vaste possible. Qui voit tout, qui voit de tout, tous les sports, tout ce qu'ils peuvent faire dans une vie. Là, on fait de la musique, du dessin, on fait tout, l'électronique. On a même un logiciel où les jeunes.
On pourrait leur inventer.
Eux-mêmes, ils inventent leurs jeux vidéo.
Exact.
Ils inventent leurs jeux vidéo eux-mêmes. Alors, il y a plein d'affaires. Et c'est certain que, comme on a une belle bibliothèque, alors, un enfant qui ouvre un livre, il découvre un monde complet. Et son univers change. Alors, il y a tout. Et le sport est aussi un endroit que tu considères comme chez vous, où tu te sens en sécurité.
En confiance.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent de néo-québécois qui arrivent, qui se sentent, ils ne savent pas trop où aller. Bien, ils viennent au centre, puis ils sont aimés, puis ils sont suivis, puis ils peuvent voir. En tout cas, c'est fabuleux.
Puis dans ta vie artistique, Yvon, il faudrait sortir le trophée Yvon Deschamps bientôt. Hein, qu'est-ce que t'en penses?
Non.
Ouais!
Non, mais en fait, moi... on va finir peut-être sur un gars. En moi.
Il a dit on va finir sur un gag parce qu'il parlait pas dans le micro.
Non non, mais moi si j'ai fait beaucoup c'est parce que c'est grâce à ma femme. Moi ma femme est très généreuse. Elle est généreuse de mon temps, elle est généreuse de mon argent, je veux dire. Elle arrête pas.
Mais merci beaucoup, merci Yvon.
Ça fait plaisir.
Merci Lise, merci Judy. Merci à vous autres, merci à tout le monde, merci beaucoup. N'oubliez pas pour Yvon.com, merci tout le monde, bonne fin de soirée.